Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un sabbat édifiant et reposant. Je vais commencer ce sermon d'une façon un peu insolite en vous donnant la description de la différence entre un meurtre et un homicide involontaire. J'ai puisé ces renseignements sur le site d'Elsa Crozatier, avocate au barreau de Paris et avocate de victimes, droit pénal et dommages corporels. Elle a publié un résumé intitulé « Différence entre le meurtre, l'assassinat et l'homicide involontaire ». Différence entre le meurtre, l'assassinat et l'homicide involontaire. Le meurtre et l'assassinat entrent dans la catégorie des homicides volontaires, c'est-à-dire que l'auteur avait l'intention de tuer. Ce sont tous deux des crimes qui sont donc poursuivis devant la cour d'assises. Le meurtre est défini à l'article 221, alinéa 1 du Code pénal, comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui. Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. L'assassinat est défini à l'article 221, alinéa 3 du Code pénal, comme étant un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. L'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui distingue le meurtre de l'assassinat est donc la préméditation, le fait d'avoir préparé, organisé, planifié le crime avant de le commettre. L'homicide involontaire est défini à l'article 221, alinéa 6 du Code pénal, comme étant le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Il se distingue de l'homicide volontaire par le fait que l'auteur de l'acte n'avait pas l'intention de tuer. L'homicide involontaire n'est pas un crime, mais un délit puni de 3 ans de réclusion et de 45 000 euros d'amende. Ces informations sont celles qui prévaut pour la France et bien entendu peuvent changer d'un pays à l'autre, mais elles donnent un point de départ pour le sermon. Ce que j'ai voulu faire avec ce sermon, c'est de voir ces 3 notions dans la Bible à l'époque de l'Ancien Testament et dans le contexte de la nation physique d'Israël. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons examiner les villes du refuge qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans la Bible et voir comment Dieu a dit qu'il fallait gérer ces différents cas de figure. Il y a aussi des parallèles que nous pouvons en tirer en ce qui nous concerne. Le titre de ce sermon est « Les villes du refuge ». Que peut-on apprendre des villes du refuge? Dès le début, Dieu a décidé comment il allait agir. La Bible parle du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, d'une part, et aussi dans le premier chapitre d'un Pierre. Je saute ici au milieu d'un contexte. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu a un plan et Dieu ne laisse pas les choses au hasard. De la même façon, avant qu'Israël entre en terre promise, Dieu leur a donné des lois, les 10 commandements, mais il a aussi donné des lois civiles pour qu'ils puissent vivre en tant que son peuple une fois entrés dans le nouveau pays. Dieu a anticipé les choses qui pourraient se passer une fois installé dans le pays, plutôt que de gérer après qu'un certain nombre de problèmes surgiraient, ce que l'homme fait parfois dans ses sociétés. Dieu connaissait la nature humaine et Dieu savait que son peuple n'allait pas être parfait. Prenons pour commencer le livre d'Exode. L'Exode se termine avec la construction du tabernacle et le fait de le dresser, ce qui est mentionné vers la fin du livre. Le tabernacle était dressé le premier jour du premier mois de la seconde année. Quelques chapitres auparavant, dans Exode chapitre 21, verset 12, Exode 21, verset 12, nous lisons ceci. Je m'y rapporte pas. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Mais il y avait un cas à part que nous trouvons dans le verset suivant, verset 13. « S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. » Il s'agit ici d'un idiome hébraïque dans laquelle il est indiqué que Dieu fait ce qui permet de se passer. Dieu a prévu ce qui pourrait, ce qui allait se passer, et par conséquent, il a donné ses consignes. La version Osterwald traduit ce passage de la façon suivante, que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, « Je t'établirai un lieu où il se réfugiera. » Nous trouvons la prévoyance dans Deutéronome juste avant qu'Israël entre dans sa nouvelle demeure. Mais allons à Nombre, si vous voulez bien, où deux dénombrements sont mentionnés. Nombre chapitre 26 nous parle du deuxième dénombrement et ceci situe le moment, l'époque, quand il a été effectué. Commençons à lire dans Nombre, chapitre 26 et le verset 63. Nombre, chapitre 26 et le verset 63. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 64. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » Ceci nous indique donc l'époque. Les enfants d'Israël sont maintenant à la fin de la période de 40 ans quand ceux qui avaient murmuré contre Dieu étaient décédés et le peuple allait bientôt traverser le Jourdain. Puisqu'ils allaient bientôt entrer dans le pays que Dieu leur avait promis, les consignes de la part de l'Éternel sont répétées quelques chapitres plus loin dans Nombre chapitre 35 où Dieu donne plus de précision. Il y a plusieurs passages qui parlent des villes de refuge et ceci démontre l'importance que Dieu leur a accordée. Il y a aussi des leçons en ce qui nous concerne. Parmi les 48 villes données comme demeure aux Lévites, il y avait 6 qui étaient aussi des villes de refuge. Nombre chapitre 35 et le verset 6. Nombre, chapitre 35, et le verset 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, et 42 autres villes. Nombre, chapitre 35, toujours le verset 11. Verset 11, « Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge ou pourrait s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Il s'agit ici d'un homicide involontaire et nous allons commencer à constater la grande miséricorde de Dieu dans ce domaine. Verset 12, toujours Norme chapitre 35 et le verset 12. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Verset 14. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Puisque les enfants d'Israël habitaient aussi à l'est du Jourdain, il leur fallait trois autres villes. Ce que l'Éternel a précisé dans Deutéronome chapitre 19, Deutéronome chapitre 19 et le verset 9, Deutéronome chapitre 19, verset 9, j'y m'y rapporte pas, pour vous que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore trois villes à ces villes-là. Il y avait trois villes de prévues en Canaan, mais aussi deux tribus et demie habitées de l'autre côté du Jourdain. Il y avait donc trois villes supplémentaires. Dieu a tout prévu à l'avance pour le bien de son peuple. En continuant à lire le chapitre, nous voyons que Dieu parle aussi du meurtre et de l'assassinat que nous avons vu au début du sermon. La pénalité à l'époque était la même pour les deux cas de figure. Nous voyons plusieurs cas de figure qui sont évoqués ici. Nombre chapitre 35 et le verset 16. Nombre chapitre 35 et le verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Verset 17. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Et le verset 18. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Dans ces trois cas, il s'agit d'un meurtre, comme il est défini dans l'article 221, alinéa 1 du Code pénal. Le verset 20 donne un détail supplémentaire. Nombre chapitre 35, toujours donc, et le verset 20. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, d'après la définition que nous avons regardée au début du sermon, c'est un assassinat. Nous voyons la justice de Dieu. Verset 30. Verset 30, « Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. » L'Éternel avait dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » C'est ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 9. La Bible nous donne plus de précisions à propos de la justice de Dieu dans le verset 15. Toujours Nombre chapitre 35 et le verset 15. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Tout homme. Un commentaire précise que l'étranger, le mot « gère » en hébreu, dénote quelqu'un qui a pris une résidence temporaire dans le pays, tandis que Toshab, celui qui demeurait dans le pays, dénote celui qui était installé en Israël. Le lexique loueur donne les deux définitions suivantes. Étranger, habitant temporaire, et celui qui demeure, c'est celui qui séjourne. Ce que nous pouvons voir est que Dieu a inclus tout le monde, les enfants d'Israël et tous les étrangers, quel que soit leur statut. L'étranger comme l'indigène, pour employer le mot utilisé dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, il est précisé dans le Nouveau Testament qu'il n'y a point d'exception de personne. Dieu ne fait point d'exception de personne, c'est emphatique. La Bible utilise le mot « point ». Il n'y a point d'exception de personne, c'est la justice de Dieu qui ressort. Ésaïe précise, et je cite, « L'Éternel est un Dieu juste ». Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 30 et le verset 18. Et à plusieurs reprises, nous lisons dans Psaume 119, à propos de, et je cite, « Les lois de ta justice ». Les lois de ta justice. Le verset 15 dans Nombre 35, que nous venons de regarder, est une illustration de la justice de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nombre, chapitre 35, toujours le verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Dieu souligne ceci, c'est répété. Il ne fallait pas accepter de rançon de la part de celui qui pouvait se permettre parce qu'il avait beaucoup. Celui qui mettait en avant sa richesse, qui faisait valoir son argent pour éviter la peine de mort. Il y a la tentation de l'argent. Le commentaire Jameson, Fawcett et Brown précise qu'il était puni en tant que meurtrier sans avoir la possibilité d'être délivré par des moyens pécuniaires. De nouveau, nous voyons la justice parfaite de Dieu. Le pauvre et le riche étaient dans la même position. La justice de Dieu. Nombre chapitre 35, verset 33. Verset 33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Verset 34. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Dieu ne voulait pas que le sang soit répandu, que le pays soit souillé. Il habitait parmi eux. Dieu n'avait pas permis à David de construire le temple parce qu'il était un homme de guerre. Et Dieu lui a dit qu'il avait versé beaucoup de sang. Nous constatons la justice intégrale de Dieu. Vous voulez peut-être garder votre place dans Nombre chapitre 35, car nous allons y revenir. C'est un chapitre qui donne beaucoup de détails à propos des villes de refuge. Le livre de Josué parle davantage de la mise en application, la réalité de ce qui se passait quand quelqu'un tuait par inadvertance. Nous allons apercevoir un autre trait de caractère de Dieu dans son application. Josué chapitre 20 et le verset 1. Josué chapitre 20 et le verset 1. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge? Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention? Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Verset 4. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Vous voulez peut-être aussi garder votre place dans Josué chapitre 20. Nous allons y revenir aussi. Les anciens donnent leur protection dans un premier temps. Dans un premier temps aussi, il lui est accordé ce qu'on pourrait peut-être appeler le bénéfice du doute. Ceci constituait une situation temporaire. Les Lévites étaient au service de Dieu. Ils avaient la connaissance de la loi de Dieu. C'étaient des gens responsables. Dans Néhémie, en parlant des Lévites, entre autres, nous trouvons les deux expressions suivantes. Qu'ils, et je cite, « expliquaient la loi au peuple » et, toujours en parlant des Lévites, « qu'ils enseignaient le peuple ». Qu'ils expliquaient la loi au peuple et qu'ils enseignaient le peuple. Des personnes donc appropriées pour être impartiales, pour calmer la fureur du vengeur de sang. Bref, en un mot, pour exercer la justice de Dieu. Aussi, dans un premier temps, ils vont accueillir chez eux, dans leur ville, la personne qui fuit. Josué, chapitre 20, verset 5. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Ils vont le protéger et empêcher le vengeur de sang d'agir. Le dictionnaire biblique Bost précise ceci à propos du vengeur de sang. C'est ainsi que l'on désignait en hébreu Goël, le plus proche parent d'un homme assassiné, parce que la loi lui accordait le droit de venger la mort du défunt dans le sang du meurtrier partout où il le rencontrerait, sauf dans les lieux consacrés sous le nom des villes de refuge. Mais la justice de Dieu ne s'arrêtait pas avec cette première protection. Josué chapitre 20, toujours, et le verset 6. Le verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Dans un deuxième temps, il fallait qu'il comparaisse devant une assemblée. Il s'agit d'un autre mot que le mot utilisé dans le verset 4, et il s'agissait ici d'une justice approfondie en bonne et due forme. Les commentaires spéculent sur la composition de cette assemblée. Si nous regardons Nombre chapitre 35, verset 25, nous avons une idée plus claire du déroulement de la situation, du déroulement des événements. Nombre chapitre 35 et le verset 25. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort d'un souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. La Mishnah, c'est-à-dire la tradition orale juive, dit la même chose. Un des commentaires parle également du Sanhédrin qui se charge de la situation. Restons dans Nombre, chapitre 35, le verset 11. Nombre 35 et le verset 11. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Je souligne le mot « involontairement ». Le sens, c'est une transgression par inadvertance. Ce mot est traduit ailleurs dans l'Ancien Testament par inadvertance et encore ailleurs par faute. Un peu plus loin, toujours dans Nombre chapitre 35, la parole de Dieu nous donne quelques exemples où quelqu'un est tué par inadvertance. Nombre 35, verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non pas inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Ceci nous amène à considérer un autre aspect de la justice de Dieu, un autre facteur qui entre en ligne de compte, un facteur que Dieu exerce sans cesse à notre égard, parce que Dieu regarde le cœur. Nous voyons ce principe très bien illustré avec David. Dieu l'a choisi comme futur roi, et il a été oint au milieu de ses frères parce que Dieu a vu son cœur, son attitude de base. Et plus tard, le même Dieu a dit de lui qu'il était un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Actes chapitre 13. Dieu regarde le cœur, et quand un enfant d'Israël ou un étranger tué par inadvertance, Dieu a tenu compte du fait qu'il n'avait pas le désir de tuer, la volonté de tuer, que c'était un accident. Aussi, à ce moment-là, Dieu a décrété que, quand c'était prouvé devant un tribunal que c'était bel et bien le cas, il ne devait pas être traité de la même façon. Il y avait un autre facteur qui entrait en ligne de compte, la miséricorde. Nous trouvons le jugement et la miséricorde mis de pair côte à côte dans le même verset, dans Jacques chapitre 2 et le verset 13. Jacques, chapitre 2, et le verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. L'amour de Dieu comporte à la fois la justice et la miséricorde. Il est un Dieu de justice et un Dieu qui exerce une miséricorde abondante. C'est à cause de la justice de Dieu que la pénalité de nos péchés, nos transgressions de la loi de Dieu ont dû être payées. Mais c'est à travers la miséricorde divine que le Christ est mort pour nos péchés. Le Christ qui était sans péché a souffert une mort atroce à notre place afin que le Dieu de justice puisse aussi nous montrer sa grande miséricorde en nous pardonnant nos péchés, afin qu'il puisse, par la suite, nous donner la vie éternelle. Imaginons l'état mental de celui qui venait de tuer un autre être humain par inadvertance. Il n'est pas difficile d'imaginer sa détresse, son angoisse, sa culpabilité, son sentiment de remords. Il était dans une situation désespérée. Il voit d'une façon très concrète le résultat de son inadvertance, de son acte, de sa faute. Et vivant dans la société d'Israël à l'époque, il savait qu'il n'était à l'abri nulle part, qu'il pourrait être tué par le vengeur de sang à n'importe quel moment. Sa seule voie de sortie était de saisir l'espérance dont il était au courant, de prendre ses jambes à son cou, de courir se réfugier dans la ville de refuge la plus proche. Il doit fuir. Fuir implique de la diligence. Il ne peut pas se permettre de flâner, de prendre son temps. Dans la circonstance, c'était un puissant encouragement de savoir qu'il pouvait se réfugier dans cette ville, de savoir qu'il serait bien accueilli, protéger, avoir la vie sauve malgré sa faute. C'était un exemple puissant de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons voir le parallèle avec nous. Dieu nous montre à travers sa parole nos péchés, nos fautes, mais Dieu nous donne aussi la possibilité de se mettre sous la grâce de Dieu, ce pardon non mérité, mais qui comporte une certaine ligne de conduite de notre part. Tout comme le meurtrier qui n'a pas tué volontairement, nous aussi, nous avons une espérance qui nous est offerte. Hébreux chapitre 6 et le verset 17. Hébreux chapitre 6 et le verset 17. Où nous lisons ceci. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Un pécheur est un mort en sursis. À moins de renoncer à ses péchés et de faire appel à la miséricorde de Dieu, il va subir la pénalité du péché. Nous aussi, il nous faut fuir ce que la Bible nous dit. Le meurtrier doit parcourir le chemin pour arriver à la ville de refuge parce qu'il y a aussi un mort en sursis, jusqu'à ce qu'il soit protégé. Jésus a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Nous trouvons ceci dans Jean, je ne m'y rapporte pas, dans Jean chapitre 14 et le verset 6. Et dans Actes chapitre 4, nous lisons Actes chapitre 4, verset 11. Je ne m'y rapporte pas non plus. Actes chapitre 4 et le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le meurtrier devait tout laisser derrière lui. Sa maison, ses terres, sa ville, ses connaissances. Il fallait qu'il sacrifie un certain nombre de choses s'il voulait sauvegarder sa vie. Si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, il nous faut tourner la page, tourner le dos, laisser notre ancienne vie derrière nous et marcher en nouveauté de vie. Le meurtrier devait s'y précipiter dès qu'il avait conscience de sa condition. Nous aussi, nous devons fuir. La Bible parle de fuir l'impudicité, de fuir l'idolâtrie, de sortir de Babylone, le système qui fait valoir les valeurs qui ne sont pas de Dieu. Revenons à Josué chapitre 20 et le verset 4. Josué chapitre 20 et le verset 4. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Ceci est avant son comparution devant l'Assemblée, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le mot « donneront » qui est utilisé ici est le même mot en hébreu que nous trouvons dans Genèse chapitre 14, où il est mentionné qu'Abraham lui donna la dîme de tout, qui donnait à Melchizedek. Le rabbin Kimchi, qui était réputé en tant que grammaticien de l'hébreu, a précisé qu'il ne devait pas louer une maison pendant tout le temps qu'il y résidait, puisqu'il est indiqué qu'il fallait lui donner, donc gratuitement. La personne pouvait se promener dans la ville de refuge sans encourir le danger d'être tuée. c'était bien plus que le fait d'être assigné à domicile. Dieu était gracieux dans sa miséricorde. Comme il est écrit dans le psaume 103, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il y a un principe biblique qui est écrit en toutes lettres dans Ésaïe 28, où il est question d'un peu ici, un peu là. Et effectivement, nous ne trouvons pas forcément toutes les informations sur un sujet biblique dans un seul endroit. Nous allons donc regarder Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. On va commencer avec le verset 1. Deutéronome chapitre 19, verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leur ville et dans leur maison, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Verset 3. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Il fallait que celui qui avait tué accidentellement ait la possibilité de s'enfuir et d'arriver dans une ville de refuge. Dieu a donc précisé qu'il fallait établir des routes à cet effet. Le commentaire Barnes précise ceci. C'est moi qui traduis. C'était le devoir du Sénat de réparer les routes qui menaient aux villes de refuge tous les ans et d'enlever tout obstacle. Aucune butte, aucune hauteur était laissée. Il n'y avait aucune rivière sur laquelle il n'y avait pas de pont et la route avait une largeur d'au moins 32 coudées. Aux croisées de chemin, il y avait des poteaux indicateurs qui portaient les mots « refuge, refuge » afin de guider le fugitif dans sa fuite. Dans le verset 9 du même chapitre, Dieu parlait d'ajouter encore trois villes à ces trois-là. Si nous prenons la largeur d'une coudée à environ 50 cm, il s'agit donc des routes qui avaient une largeur d'environ 16 mètres, de vraies autoroutes, et surtout des routes qui facilitaient la fuite de celui qui fuyait pour sa vie. Dieu est très miséricordieux et il veut sauver celui qui a tué par inadvertance. Regardons maintenant la taille du pays. La terre promise n'est pas très grande comme pays. Il y a une expression du reste qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible. C'est l'expression « depuis Dan jusqu'à Beersheba », expression qui dénotait les deux extrémités du pays à l'époque. Dan dans le nord et Beersheba dans le sud. En regardant Google Maps et en demandant la distance entre ces deux endroits, l'itinéraire le plus court est de 283 km. Et ce n'est pas à vol d'oiseau. Aussi à vol d'oiseau, la distance est plus courte. Revenons encore une fois à Josué, chapitre 20 et le verset 7. Josué, chapitre 20, et le verset 7. Ils consacrèrent Kadesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, c'est dans le nord, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, au milieu, et Kirjat Abba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, qui était au sud. Verset 8. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, au sud. Il y avait deux tribus et demie à l'est du Jourdain, et Ruben était dans le sud. Ramoth, en Galaad, dans la tribu de Gad. Gad était au milieu, et Golan en Basan, dans le tribut de Manassé. Le demi-tribu de Manassé était vers le nord. Il n'y avait pas à voir de conséquences, deux au nord, deux au centre et deux au sud. Dans aucune partie du pays, on avait à faire plus de 50 kilomètres pour atteindre l'une ou l'autre. Vu la taille du pays, nous comprenons que c'est tout à fait possible. Dieu a facilité les choses. Dieu a aidé le fuyard dans sa fuite à gagner rapidement une ville de refuge. Il pouvait gagner la ville dans une journée. Un commentaire indique que c'était possible pour tout fugitif d'atteindre une en moins d'une journée de marche. C'était aussi possible. À titre de comparaison, les armées napoléoniennes effectuaient souvent des marches de 40, 50, voire 60 kilomètres, et ils avaient tout leur équipement sur le dos. Et si vous fuyez pour votre vie, cela vous donne des ailes, l'adrénaline aidant. Ce qui ressort avec les villes de refuge est le fait que Dieu ne change pas. Comme il est écrit dans Malachie, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les principes que nous voyons à travers les villes de refuge reflètent son caractère éternel, sa nature. Les lois de Dieu, ses instructions, ses décisions, ses consignes sont tous basées sur son caractère immuable, constant, qui ne change pas à travers le temps. Dieu prévoit à l'avance et il exerce toujours sa justice. Il fait toujours de nos jours preuve de miséricorde. Ce que nous pouvons discerner aussi dans le cas d'un homicide involontaire à l'époque, dans la théocratie d'Israël, c'est qu'il y avait quand même une pénalité. Nous avons lu Nombre chapitre 35, verset 11, Nombre chapitre 35, verset 11, où il est question du, je cite, « meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement ». C'était involontaire, mais la personne a tué quand même. Dieu a dit dans les 10 commandements, et je cite, « Tu ne tueras point ». Dans le rabbinat, c'est marqué « Ne commette point d'homicide ». Le lexique loueur donne la définition suivante de « involontairement »« péché, péché involontaire ou par inadvertance » ou encore le mot « erreur ». Nous trouvons le même mot au début de Lévitique, où il est question, entre autres, de sacrifice offert à cause d'un péché involontaire. Par exemple, dans Lévitique chapitre 4, verset 27, Lévitique chapitre 4 et le verset 27, nous trouvons ceci. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, c'est le même mot, involontairement, qui est employé. Continuons au verset 28, Lévitique 4, verset 28, « Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il fallait qu'il offre un sacrifice pour que le péché lui soit pardonné, comme c'est indiqué dans le verset 31 du même chapitre. Il y avait la notion de responsabilité qui incombait à cette personne, comme à tout le monde. La personne était responsable pour ses actes, pour son comportement. Dieu a précisé dans Deutéronome chapitre 22 et le verset 8, Deutéronome chapitre 22, verset 8, je ne m'y rapporte pas. « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Le mot « responsabilité » ne se trouve pas dans la Bible en français. Le mot « responsable » est utilisé à deux reprises. mais la notion de responsabilité individuelle est évoquée dans le 18e chapitre d'Ézéchiel. De la même façon, la personne qui a commis un homicide involontaire aurait dû, faire davantage attention pour que l'accident n'arrive pas. Revenons, si vous le voulez bien, à Nombres, chapitre 35 et le verset 22. Nombres, chapitre 35 et le verset 22. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non pas inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Il aurait dû réfléchir avant d'agir. Faire attention et voir si quelqu'un était dans les parages tout près. Par amour pour son prochain, d'écarter tout danger potentiel, d'éviter que ce genre de choses arrive. Dieu s'attend à ce que nous exercions notre responsabilité personnelle dans la vie pour éviter de transgresser ses lois, même quand nous agissons par inadvertance. Et quand ce n'est pas le cas, il y a un prix à payer, même si nous savons que Dieu regarde le cœur et qu'il exerce sa miséricorde. Nous pouvons nous inspirer des récits mentionnés dans la Bible sur les villes de refuge. Ils sont écrits pour notre instruction. Nous inspirer en voyant la parfaite justice de Dieu, mais aussi en constatant sa grande miséricorde qu'il exerce pour celui qui avait tué involontairement. Il fait de même avec nous. Dieu veille sur son peuple, sur ses enfants, tout comme il protégeait ses tueurs involontaires. Il nous a donné des lois pour nous protéger, pour autant que nous les pratiquions. Il sait qui nous sommes et ce que nous sommes, des pécheurs. Réfléchissons à tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait pour nous, et soyons lui infiniment reconnaissants pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour sa justice à notre égard.